bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est Maître Valentin Loury. Valentin est avocat au barreau de Marseille depuis 2018 et il est également pénaliste. Et j'en profite pour vous dire que c'est donc une longue série de pénalistes que je termine avec Valentin, enfin que je termine. Il y aura de nouveaux pénalistes à l'avenir dans Fleur d'Avocat, mais là, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, puisque la semaine dernière, c'était Anne-Sophie Arbelot de Rouffignac, qui est pénaliste à Poitiers. La semaine d'avant, Nabil Boudi, qui est pénaliste à Paris. Un petit peu avant, Aurélien Bourdier, qui était pénaliste à Poitiers. Et encore avant, Safia Akori. Pénaliste à Paris, et donc il faut que je redonne place aux civilistes, aux publicistes et aux autres formes et types d'exercices de la profession d'avocat qui existe. En tout cas, c'est un plaisir de recevoir Valentin qui est un auditeur de la première heure du podcast. C'est pas du tout la raison pour laquelle il a été mon invité, c'est grâce à sa recommandation par Maître Clémence Xantia, à qui il a fait découvrir le podcast d'ailleurs, qui fait donc que je l'ai reçu à l'occasion d'un déplacement à Marseille. Alors j'ai reçu un petit message d'une auditrice qui me demande pourquoi une surreprésentation du barreau de Poitiers. Eh bien, la surreprésentation du barreau de Poitiers, c'est parce que j'en suis originaire. Et la surreprésentation aussi du barreau de Marseille, donc parmi les barreaux de province, hein, parce que le vrai barreau qui est majoritaire dans Fleur d'Avocat, c'est bien le barreau de Paris. Mais il se trouve que je suis originaire de Poitiers et que j'ai beaucoup de famille à Marseille. Et je profite de mes déplacements à Poitiers et à Marseille pour faire des interviews pour le podcast, pour que la province soit aussi à recommander. Enfin, pas la province, pardon, la région. Voilà, je ne vous embête pas plus avec mes introductions à rallonge. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Ah si, avant, n'oubliez pas de laisser un avis et 5 étoiles sur le podcast. À ce titre, je remercie Kat M23 et aussi Dylan Pernaud pour leurs avis respectifs. Sur iTunes et Apple Podcasts. Ces avis sont très précieux pour m'aider à faire connaître le podcast au plus grand nombre. Et donc, voilà, merci à vous. Et si vous n'êtes pas sur iTunes et sur Apple Podcasts, eh bien, le bouche à oreille, c'est aussi très efficace. Voilà, je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Valentin Loury.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat.
Ben merci à toi parce que j'écoute Fleur d'Avocat déjà depuis un petit bout de temps. Je sais pas combien de temps t'as commencé, mais
j'ai commencé il y a 2 ans.
J'avais écouté l'interview de Margot Frisk avec qui j'étais à l'école. Je pense que c'est via son interview que j'ai entendu Fleur d'Avocat et puis j'ai suivi un peu. Alors j'ai pas tout écouté, mais j'en ai écouté quand même quelques-unes. Et je trouve que c'est pour ça que j'ai accepté cette interview, parce que bon, parler de moi, ma vie, mon œuvre, c'est pas forcément ce qui m'intéresse énormément, mais par contre, voilà, contribuer à ton travail, à cette espèce de discussion entre confrères et de se dire, bon, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui, les expériences de chacun, et puis en voyant que, à Caen, à Poitiers, à Paris, on a tous à peu près le même vécu, on rencontre des difficultés similaires, ça fait parfois du bien quand on est seul dans son cabinet. Voilà.
Eh ben, je suis très heureuse de recevoir un auditeur de la première heure de Fleur d'Avocat sur le podcast. C'était pas intention. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que je fais ma sélection, mais c'est vrai que donc c'est Clémence,
oui,
qui t'a recommandé. Elle m'a dit, et en plus, ça me fait d'autant plus plaisir de le recommander que c'est lui qui m'a fait découvrir Fleur d'Avocat. Donc, ouais, je trouvais que c'était un chouette retour de karma. Merci en tout cas beaucoup d'être ici encore une fois.
Je t'en prie.
Et on va donc parler de ta vie et de ton œuvre. Et non, ce n'est pas un exercice égocentrique, c'est un grand exercice de générosité, puisque comme tu le dis, ça aide plein de confrères et plein d'élèves avocats et plein d'étudiants à se projeter, donc ouais, c'est top. Alors Valentin, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat.
Alors, du coup, après avoir entendu plusieurs avocats, il y a souvent le truc de dire par hasard. En fait, c'est pas vraiment un hasard, parce que on prend des décisions quand même par rapport à ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, et puis Mais bon, ça reste quand même par hasard dans le sens où moi je ne viens pas d'une famille d'avocats, je ne viens pas d'une famille non plus en lien avec des avocats, c'est-à-dire que j'avais jamais entendu parler d'avocats avant peut-être mes 20 ans. Je viens d'une famille rurale, enfin je suis originaire de Bretagne. Mon père est agriculteur, ma famille est plutôt dans le milieu médico-social, donc j'avais jamais entendu parler de cette profession. Puis pour moi, j'avais vraiment un imaginaire collectif en fait sur l'avocat, le type en costume, la plaidoirie, enfin etc. Et donc pendant mes années lycée, j'ai pas, enfin parce que c'est un peu souvent là qu'on commence, parce qu'au collège on est un enfant, mais au lycée, j'ai pas du tout pensé à faire du droit. J'avais des facilités à l'école, j'avais une facilité d'expression et une démonstration. Enfin, j'aimais bien le fait des matières comme l'histoire géo, la biologie, la philo, des trucs qui me permettaient d'avoir un schéma de pensée, mais en même temps, c'était pas quelque chose. Voilà, enfin, le droit, je voyais pas du tout à quoi ça se rapportait. Après, j'avais quand même justement au lycée un peu cette envie de parler un peu pour les autres, c'est-à-dire que ça fait partie un peu de la race des délégués de classe, tu vois.
Il y en a plein, hein.
Du conseil de vie lycéenne. Enfin, j'étais dans des manifestations pour la réforme de Villepin. Enfin, mais bon, sans, je pense pas que j'avais vraiment des idées politiques à l'époque, mais en tout cas, j'avais envie de prendre la parole, quoi. Et donc voilà. Et donc du coup, je sors de ce lycée où en fait on n'a pas vraiment. Enfin, c'était un lycée où on proposait plutôt des schémas type IUT, BTS, parce que c'était un peu le public qui venait dans ce lycée-là. Il y avait quelques-uns qui partaient en prépa, mais c'était vraiment les meilleurs. Et puis la fac était vraiment vue comme étant de la part d'ailleurs de ma famille, mes amis ou autres, comme étant l'endroit de la glande en fait, l'endroit où tu vois où on fait rien quoi. Donc je suis parti en IUT de gestion. Entreprise d'administration ça a été un échec total parce que
Au bout de combien de temps?
j'ai fait en présentiel comme on dit aujourd'hui j'ai dû faire 3 semaines je pense après j'ai essayé de m'accrocher en me disant bon peut-être que ça pourrait me permettre de faire autre chose et puis j'ai découvert des matières justement le droit, il y avait un cours de droit, il y avait un cours de psycho aussi que j'aimais beaucoup. Mais j'étais parti pour faire de la DRH. Enfin, aujourd'hui, je vois pas du tout ce que j'aurais pu apporter dans ce métier-là. Je vois pas du tout. Enfin, et puis j'étais encore. Enfin, faut se remettre. J'avais des cheveux longs, j'avais un bandeau dans les cheveux. Voilà, j'étais pas.
T'étais pas prêt pour la vie pro.
J'étais pas prêt pour la vie pro. Puis surtout, j'étais pas prêt pour la vie dans un monde de travail. Enfin, je me rappelle un prof de psycho qui justement nous apprenait les codes de chaque société. Enfin, c'est un peu le moment où on apprend les grandes pensées, un peu Bourdieu et autres. Et c'est clair que moi, j'avais rien à faire là, quoi. C'est clair. Puis en plus, le prof de compta m'a pris en grippe dès le début. Donc non, ça a été une catastrophe.
Donc t'as arrêté au bout de quelques semaines à y aller et du coup t'as fait quoi? Comment tu te sentais? Comment
Oh bah c'était la grosse déprime hein. Parce que du coup là au bout de 3 semaines puis en plus personne n'a compris vraiment ce choix pourquoi je partais là-dedans et moi j'étais vraiment en disant non mais je veux faire absolument ça bon je me suis retrouvé à Rennes bon après il y avait une vie étudiante qui s'est calée dessus et donc bon je te dis j'ai essayé de m'accrocher comme j'ai pu mais bon, c'était pas je me suis vraiment pas amusé quoi bon j'ai quand même passé le concours de enfin j'ai quand même passé l'examen de premier semestre, mais après l'examen de premier semestre, j'ai arrêté.
Ouais, et
Ouais.
du coup?
Et du coup, la grosse question, j'ai tenté vaguement, mais alors, tellement vaguement que c'est anecdotique, de préparer le concours de Sciences Po, parce que j'avais vu une psychologue d'orientation, qui m'avait dit qu'éventuellement j'aurais pu être diplomate, mais c'était tellement.
Désincarné.
Mais oui, enfin, puis en plus cette femme-là, bon, vraiment, si j'ai un conseil à donner aux étudiants, les psychologues d'orientation, faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Il faut prendre ça comme une information avec une autre, et c'est pas elle qui va vous dire ce qu'il faut faire, hein, parce que vraiment, moi en tout cas, elle m'a ruiné 2 mois où j'ai du coup vraiment perdu complètement confiance en moi. Je savais même plus du tout. Enfin, je disais, mais les propositions qu'elle me fait, c'est très loin de ce que je suis, quoi. Voilà, j'ai fait, j'étais beaucoup avec des potes et c'était aussi, il y avait une nouvelle, je sais pas, il y avait une réforme encore et donc la fac de Rennes 2 a fermé. Et donc, du coup, on était beaucoup d'étudiants à rien faire. Et donc, je pense que c'est là où j'ai commencé à avoir un réseau d'amis et puis notamment un réseau d'amis dans le milieu associatif et notamment un type alors qui était dont son père était avocat et donc j'ai commencé à avoir ce truc-là. Moi, mes parents ont continué de payer l'appartement, je leur remercie encore aujourd'hui. Mais bon, sans grande réussite. Et puis bon, je me suis dit quand même qu'il fallait me ressaisir. Et puis il fallait que je gagne un peu d'argent. Et donc du coup, j'ai bossé l'été à l'abattoir. Et là, j'ai vraiment découvert ce que c'était que le travail, quoi. Vraiment le tripalium, quoi. La souffrance, ce que c'est que de travailler vraiment. Et puis aussi du quotidien de ces gens-là qui tous les matins se lèvent pour aller bosser machin. Et puis donc là après tu vois après cette année-là de glande où j'étais perdu et où j'ai cette expérience professionnelle dure en me disant c'est pas possible je vais pas faire ça quoi. 3 semaines avant je savais toujours pas dans quelle fac m'inscrire en mois d'août et je me suis inscrit du coup je savais toujours pas si je voulais m'inscrire en fac d'histoire parce que j'avais bien aimé ça. Ou en fac de droit, mais sans savoir pourquoi. À l'époque, je crois que je voulais être fonctionnaire attaché territorial. J'aurais bien bossé dans le monde de la culture, mais bon, pourquoi du droit pour ça, je sais pas. Voilà.
Ouais, t'avais peut-être identifié ça comme une voie qui mène à tout,
Oui,
un
voilà,
truc
ouais,
qui
je crois.
pourrait pas desservir.
Un peu comme tout le monde. Ouais, puis bon, les premiers cours de droit m'avaient intéressé. Puis bon, ouais, voilà, le droit mène à tout, quoi. Et puis j'arrive à la fac. Et là, au cours d'introduction au droit, et j'avais vraiment l'appétit du cours enfin vraiment même cette ambiance d'amphi avec le bois, l'ambiance d'être 400 et d'être anonyme, de pouvoir faire ce que de taper son cours, d'être en autonomie, en fait, ça me plaisait énormément.
Et par rapport à, du coup, à l'a priori de ta famille sur le fait que la fac, c'est un truc de glandeur,
Bah.
tu t'en es détaché, comment ça s'est...
Oui, mais en fait, c'était parce que c'était pas forcément un truc de glandeur, mais c'était un truc dans lequel mes frères et sœurs s'étaient perdus. Enfin, ma grande sœur, elle a fait une fac d'histoire, une fac de maths, et mon autre grande sœur a fait une fac de médecine qui a été extrêmement dure pour toutes les deux, dure à vivre parce elles ont vécu le fait d'être anonymes dans un amphi comme étant une solitude, comme étant un peu seule contre tous, ou surtout en fac de médecine. Et du coup, enfin moi justement quoi, ça me plaisait beaucoup le fait d'être en autonomie quoi. Et donc je me suis détaché de ça, oui, parce qu'en fait très rapidement ça m'a plu en fait. Ouais.
Et les matières t'ont plu, comme tu dis?
Ouais, mais en fait ce qui m'a plu vraiment, c'était plus enfin c'était le fait d'avoir une ouverture sur plein de choses dans lesquelles j'avais jamais entendu parler, les institutions, la Cour de cassation, Conseil d'État, etc. Ça j'avais jamais entendu parler de ma vie. Et c'est plus une curiosité du système de savoir comment ça marchait. Et après une curiosité du système rhétorique, enfin de la démonstration. Ça c'est. Et puis après la curiosité aussi du droit pénal avec un peu la garde à vue, des choses comme ça on commençait à avoir dans les premiers cours. Enfin, je sais pas si c'était en L1, mais et puis j'ai rencontré un. Enfin, c'est aussi les amis en fait qui font la fac généralement. Et il y avait un pote qui est d'ailleurs toujours un pote qui était passionné de droit pénal et qui en parlait et qui lui avait eu cette idée-là depuis longtemps. Et du coup, je me rappelle vraiment de soirée dans son tout petit appart là, à bord du vin rouge, et à parler de droit pénal. Et moi, j'ai vraiment plus vécu ces années étudiantes comme étant plein. Ouais, puis il y a vraiment à Rennes, il y a une vie étudiante très forte. Il y a vraiment des jeudis qui commencent le mardi, quoi. Donc c'est clair que c'est il y a il y a
Rue de la Soif.
il y a la rue de la soif. Ouais, mais bon, il y a pas que. Il y a vraiment. Et il y a la fac en plus, bon, il y avait plein de gens qui étaient partis à fait droit sans savoir vraiment ce qu'ils voulaient faire. Et donc il y avait plein de glandeurs aussi, quoi. Donc il fallait quand même rester concentré.
T'as
Mais
fait
j'ai.
partie de ces étudiants qui ont réussi à jongler entre la fac et
Fait,
la
j'ai
vie
rapidement
étudiante.
compris que la fac, il y avait 3 fois 4 mois, il y avait 4 mois de vacances, 4 mois d'amphi et 4 mois de TD. Et que ces 4 mois de vacances, si tu sais bien jongler ton truc entre un stage, 2 mois de boulot et un mois de voyage, Deux mois d'amphi, ces deux mois-là, il faut en profiter pour faire autre chose, aller aux amphis, de temps en temps récupérer les cours, etc. Mais en même temps, il n'y a pas une charge de boulot énorme. Et puis les TD, par contre, dès que les TD commencent et que les partiels approchent, là, je me mettais à fond au boulot. Et cette même bande de potes qui était là pour les vacances, pour les moments d'amphi, et ben cette même bande de potes-là était capable de se concentrer, d'aller en BU ensemble et de bosser, quoi. Et donc il y avait quand même un, voilà, on se mettait voilà, puis il y avait toujours cet objectif là de bah, une fois qu'on aura passé ce partiel là, on pourra retourner dans ces deux mois d'amphi ou quatre mois de vacances. Et donc du coup moi j'ai vraiment adoré les vie étudiantes, enfin les trois années.
T'as continué la vie associative?
Non, après je suis toujours proche du milieu associatif, mais je suis pas engagé dans le milieu associatif. Là récemment j'ai intégré le SAF, qui est pas une association, mais qui est quand même
un collectif, avec
un syndicat, donc quand même,
ouais.
Voilà, mais toujours proche, ouais carrément. Et puis après, dans mes années étudiantes, j'ai le milieu associatif, je l'ai rejoint avec Lysias.
Et donc Lysias, tu l'as rejoint en quel...
Je l'ai rejoint en master 1 quand je suis arrivé à Paris. Ouais.
Donc ouais. Tu fais ta licence à Rennes?
Ouais. Et la dernière.
Stages, si je comprends bien.
Ah ouais. Alors donc en fait la deuxième année, je suis passé ric-rac parce que du coup j'avais peut-être un peu trop concentré de temps sur les potes. Et la troisième année, je me suis concentré un peu plus. C'était pas encore grandiose, mais bon, au moins je me suis concentré un peu plus et j'ai fait un stage parce que je me suis dit, bon, là, t'arrives en troisième année, gars, je sais toujours pas ce que tu veux faire. Je savais vraiment, enfin, j'avançais et à l'époque, je voulais faire du droit public, toujours dans cette idée de passer des concours de l'attaché territorial. Et j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats qui avait la particularité d'avoir un avocat dans chaque domaine, droit public, droit administratif, droit pénal, droit privé, droit social. Et j'ai passé une journée avec chaque avocat. Et je me rappelle de l'avocat en droit public qui m'avait reçu et qui m'avait dit, mais alors toi, jamais en droit public, tu vas t'ennuyer de fou. Et par contre, l'avocate en droit pénal qui m'avait raconté pendant 3 heures son histoire d'assises qu'elle est arrivée avec un type qui avait tiré sur un lit conjugal en pensant tuer l'amant et en fait avait tué sa femme. Et j'avais trouvé ça génial. Et voilà. Et donc du coup, licence. Et à la fin de ma licence, enfin déjà la troisième année, ma copine était partie à Paris. Et donc je voulais la rejoindre à Paris. Je pense que j'ai dû envoyer les demandes au dernier moment à la Sorbonne. Du coup, j'ai pas été pris à la Sorbonne. Et ce qui montre un peu le niveau de motivation aussi de l'époque. Et du coup, j'ai envoyé à Nanterre. J'étais prêt à Nanterre.
Et juste petite parenthèse, ce stage, tu l'avais trouvé comment ?
Via l'association dans laquelle j'avais été en première année, le pote dont j'ai parlé tout à l'heure.
Oui, donc c'était son papa.
Ouais, c'était son père, ouais, qui avait accepté de me prendre pendant une semaine. Je crois que c'est pas énormément plaisir, mais.
Mais il avait accepté,
ouais. Et
c'était bien passé. C'était un stage d'observation, quoi.
Ouais,
une
ouais, carrément, ouais. Plus un stage de rencontre, en fait. J'avais rien fait. J'avais juste rencontré les 5 avocats, je crois.
C'était pas mal. Et donc, tu arrives à Paris, à Nanterre.
À Nanterre. Et à Nanterre, bon, déjà la vie parisienne, moi, ça me plaisait, ça me tentait pas de base. Mais je me disais que je pouvais pas rester à Rennes parce qu'il fallait tous mes potes partaient en Erasmus, faire des trucs. Moi, je voulais pas partir en Erasmus parce que je me doutais, je savais pour avoir été les voir que c'était quand même une année où partait à l'autre bout de l'Europe, surtout pour rien faire. Il y a quand même pas beaucoup d'Erasmus qui sont vraiment réussis. Bon, voilà. Et donc, enfin, en tout cas, j'avais cet a priori là, à tort ou à raison. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je parte à Paris pour avoir plus d'ouverture, quitte à revenir ensuite. Mais je sentais qu'à Rennes, je stagnais un peu dans mon truc. Et puis surtout, je voulais rejoindre ma copine. Et donc, mes parents ont accepté que je parte à Paris, ce qui était aussi sympa de leur part, parce que le loyer était plus cher, parce que ça demandait... Bon. Mais avec cette idée que en restant à Rennes, bah j'allais passer le concours. Enfin, je voyais déjà ma vie en fait à Rennes, quoi. Je me suis dit à Paris, je vais rajouter un peu de surprise. J'arrive à Nanterre et le trajet RER A, l'arrivée à Nanterre Université dans la gare qui était en travaux là, l'arrivée dans l'amphi, tagué de partout. On était 80 dans l'amphi qui était immense et je me rappelle avoir eu un coup de cafard, me dire mais qu'est-ce que je fais là? Ah, et puis surtout en plus quand je suis arrivé à Nanterre, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et donc je m'étais inscrit en master 1 droit judiciaire et au moment de l'inscription pédagogique, je vois qu'il y a deux feuilles. Il y a une feuille droit commercial banque assurance et un truc droit pénal. Et en fait, je voulais pas faire banque assurance et donc du coup, je coche droit pénal. Mais je coche pas droit pénal en me disant c'est ça que j'ai envie de faire. Je coche droit pénal parce que j'ai pas envie de faire banque assurance. Tu vois, c'est pour ça que je disais par
une
hasard, mais en
même
temps,
choix par défaut.
Je vois par défaut un peu. Et puis en fait, j'arrive en cours de master 1 et trop bien quoi.
T'as adoré?
Ouais, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré parce qu'il y avait que des gens passionnés, tous. Aujourd'hui, dans ce master 1, il y a des gens qui sont CPIP, avocats, directeurs, enfin qui sont au parquet, qui sont au siège. Non, franchement, et puis des gens qui en voulaient quoi. Et puis c'était à Rennes le. Un peu le leitmotiv de la fac, c'était de dire que droit pénal, ça ne menait à rien, que ceux qui faisaient du droit pénal, c'était les types qui avaient la voiture la plus moche sur le parking de la fac. Et donc moi, j'étais vraiment parti dans cet a priori là, quoi, de l'avocat pénaliste qui galère à fond. Et à Nanterre, pour la première fois, j'entendais des gens dire non, mais en fait, un tel. Et puis du coup, j'apprenais aussi, enfin en allant à Paris, du coup, j'ai appris le nom d'avocat que j'avais jamais entendu parler.
Tu dis d'avocat dont j'avais jamais entendu parler. Est-ce que en creux, ça veut dire que tu te renseignais un petit peu sur le milieu, ou est-ce que c'est juste que il se trouve que tu n'en avais pas entendu parler?
En fait, comme j'avais ce truc de me dire que je venais d'un milieu rural, que j'avais pas connu d'avocat avant, enfin milieu rural, mes parents sont pas, c'est des gens cultivés et autres, hein, mais bon, en tout cas, j'avais pas ce monde-là, je le connaissais pas. Et donc du coup, je me disais qu'il y avait quand même des codes qu'il fallait connaître. Et dans le milieu des avocats, en tout cas chez les étudiants au début, il faut connaître des noms. C'est un peu du coup je me suis dit bon là avec ouais, il faut que j'apprenne le plus de noms possible qui voilà et parce que je me suis dit faut que j'apprenne ça quoi. Mais notamment j'ai appris voilà je me rappelle que je passais du temps à lire le nom des secrétaires de la conférence tu vois sur le site je disais comme ça je me disais ah ouais, un tel un tel je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était intéressant
Non,
ça
mais
va
c'est une
ouais.
manière de s'enseigner sur qui est un peu dans le milieu et...
Ouais, puis je crois que c'est un truc un peu d'identification aussi, chercher un peu à quelqu'un qui me ressemblait dans ce milieu-là.
Et donc c'est à ce moment-là que tu as intégré l'ISIAS.
Voilà, parce que il y avait dans ce master 1 une pote qui avait passé le concours à Nantes, qui avait gagné, je crois, le national ou qui avait été en demi-finale. Et donc c'est un concours d'éloquence, hein, l'ISIAS, et qui du coup faisait partie du bureau. Et il cherchait quelqu'un pour entrer dans le bureau. Mais sauf que normalement, pour entrer dans le bureau, il faut gagner le concours. Moi, j'avais jamais passé le concours. Et Rebecca m'a dit non mais vas-y, viens dans le bureau. Tu vas voir, on va s'éclater, on va faire un truc. Bon. Et donc, de toute façon, c'est ce qu'il faut. C'est pas, on s'en fiche que t'aies gagné ou pas gagné. Ce qui est important, c'est réserver le buffet, réserver la salle, rencontrer les avocats, demander à ce qu'ils soient là, et puis gérer de temps en temps, voilà, des merdes qui arrivent, quoi.
Donc tu t'es mis au bureau, est-ce que tu as un jour passé le concours ou pas?
Non, j'ai pas passé le concours et j'ai passé les concours ici, mais sans succès. Donc c'était que bon.
Donc ici à Marseille, pardon.
Ouais.
Et donc ce master 1 se termine, tu fais un stage à la fin de l'année?
Oui, ouais, je fais un stage et donc du coup, en me disant il faut absolument que je fasse un stage et donc je vais au tribunal et en me disant il faut que j'ai envie d'apprendre chez des gens que j'ai vu plaider
Donc, t'allais voir des gens plaider.
ouais
Ça faisait partie des petites choses que tu faisais pour te cultiver.
je crois que c'était la première fois
Ok.
tu vois j'avais jamais été alors que bon master 1 quand même c'était la première fois que j'allais voir des gens plaider je me rappelle même pas de plaidoirie donc ça se trouve je suis juste allé au tribunal et je suis tombé sur j'ai dû faire chou blanc quoi. Mais voilà, et je rencontre un ou deux avocats qui me disent ah bah attends, envoie un CV à Rachel Lindon, voilà, peut-être qu'elle cherche.
Attends, donc en fait, tu es en train de me dire que tu es allé au tribunal pour trouver un stage.
Ouais.
Donc.
Ouais. Ouais, parce que je.
Non, j'ai... non, mais je le souligne. T'es allé au tribunal avec ton CV.
Ouais.
Et tu. Donc là, quoi, tu. Sur... C'est sur les bancs du tribunal.
Exactement.
C'est dans les couloirs.
Ouais, ouais.
Tu t'approches des avocats en robe.
Ouais.
Et tu leur dis bonjour, je m'appelle Valentin Lauré,
ouais.
Je suis étudiant
ouais,
en restaurant.
Ouais, je connais personne.
Je connais personne, je cherche un stage.
Ouais.
Ok.
Voilà.
Et donc c'est là que tu rencontres une avocate qui te dit, ah mais tiens.
Je rencontre deux avocats qui me disent, on a une pote qui s'appelle Rachel Lindon qui doit chercher, ou en tout cas leur cabinet doit chercher un avocat. Ou en tout cas ils vont le prendre. Ils sont sympas, t'inquiète pas, ils vont le prendre. Et du coup j'envoie un CV et effectivement elle me rappelle quasiment 2 heures après.
Okay.
J'étais tout tremblant, c'est fou. Et je suis rentré et je me rappelle vraiment du premier entretien où j'étais là dans mon costume trop grand, en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là dans un cabinet avec des grandes moulures, des trucs.
Donc Rachel Lindon, donc cabinet de droit pénal quand même.
Ouais, ou... ouais, c'est une ancienne secrétaire à la conférence.
Mm-hmm.
Elle devait avoir, je sais pas, devait avoir 4 ou 5 ans de barre à l'époque, peut-être un peu plus. C'est une femme, voilà, c'est vraiment une rencontre de dingue. C'est une femme très forte et qui est brillante, qui en veut, qui a vraiment la rage. Bon, et puis en fait, elle me prend parce qu'elle a besoin de parce qu'il voilà dans sa vie il se passe des choses, donc elle a besoin d'avoir quelqu'un au cabinet en supplément. Et puis en plus parce qu'elle est des assises de prévues. Et donc, je suis chargé de voir les autres dossiers, mais surtout de préparer ces assises-là. C'est pas ses premières assises, mais c'est des assises importantes pour elle. Une sorte de viol sordide dans une cave à Nanterre. C'était 4 jours, mais génial. Je crois que j'ai perdu 3 kilos. Et je perdais pas une miette. Je pourrais en fermant les yeux, je pourrais me refaire le fil des 3 jours d'assises. C'était dingue. Et de me dire là que cette femme là qui a levé défendait le type qui avait le pire profil, elle allait plaider en dernier du coup parce qu'elle avait le pire profil, je me disais mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à faire ça, et en même temps j'ai trop envie de le faire. Et puis vraiment, ouais, j'avais vraiment la sympathie pour elle. Enfin, c'était vraiment top. Et puis du coup, elle m'invite aussi, voilà, à voir d'autres gens. Mine de rien, j'apprends aussi un peu la langue aussi. Enfin, il y a quand même une langue. C'est-à-dire que bon, on parle pas de la même façon à Paris avec le secrétaire de la conférence qu'à Rennes avec ses potes. Enfin, c'est pas la même chose. Donc bon, bien sûr,
on en revient aux fameux codes sociaux.
Oui, ouais, et. J'ai vraiment à Rome comportant romain, tu vois, vraiment j'ai essayé de copier ça au maximum, quoi. J'étais un buvard et tout ce qui se passait je le prenais, quoi.
Donc elle t'a à la fois intégré en termes de travail sur la petite main, comment on travaille sur les dossiers, ça a été sympathique, et puis en plus elle t'a ouvert sur le milieu, quoi. Elle t'a fait rencontrer des gens,
Même si ça n'a pas forcément abouti, mais
non, mais c'est pas le sujet,
Mais en tout cas ça m'a,
elle t'a ouvert des portes,
ouais,
carrément. Même si on a aucune voilà.
Bah si, elle m'a ouvert des portes parce que mine de rien c'était une ligne sur le CV quand même. C'était bon, puis derrière elle a je crois qu'elle a jamais elle a jamais dit non pour passer un coup de fil, et donc bon voilà, et puis elle m'a repris dans un autre stage plus tard.
Ouais.
Donc
là vraiment le pénal coup de cœur,
ouais,
et c'est plus trop une question, quoi.
C'est plus une question, non, c'est ça, ce sera ça, et puis.
Et ce sera avocat.
Et ce sera avocat, ouais. Mmh. Ah ouais, parce que le fait de se lever, puis bon, quand on évolue avec des avocats, forcément le parquetier, ça devient vite le méchant, le siège, ça devient vite le magistrat qui entend mais qui entend pas trop, et puis de toute façon qui prend une décision et en pleine, enfin donc en fait très rapidement je rentre dans le schéma de l'avocat. Ouais. Et puis donc du coup je continue en master de droit pénal à Nanterre, et je m'inscris aussi à l'IEJ, et je m'inscris aussi en diplôme universitaire organisation pénale internationale. Donc je fais 3 diplômes en une année.
Donc là le glandeur de l'IUT.
Donc là le glandeur de l'IUT,
on est
très très loin. Et puis ma copine a encore bougé, elle est partie à Montpellier cette année-là. Et donc je me suis dit en fait, pour avoir le concours, il faut être une bête de concours. Il faut, enfin, avoir l'examen de Donc, je vais me mettre dans une situation de prépa où je vais bosser pendant un an comme un dingue. Mais j'en garde encore une fois aucun mauvais souvenir parce que
Mon
c'était.
meilleur souvenir, c'est ma prépa Hippocagne. J'ai jamais autant travaillé et c'est mon meilleur souvenir
Ouais.
d'étudiante. Donc,
C'est fou, hein, parce que des fois. Parce que non plus, l'entourage. Peut en garder un souvenir, dire attends, t'étais fatigué à l'époque,
ouais.
on ne voyait plus, ouais, mais
Mais toi, c'est une, y a, enfin, je veux dire, il y a une telle source de joie et de croissance et de, enfin voilà,
ouais.
c'est des moments qui font énormément, même intellectuellement, tu vois, le fait de découvrir autant de choses, de se nourrir de choses qui nous passionnent et tout. Enfin, je trouve que c'est ça qui, moi, c'est ça qui reste. J'ai aucun souvenir de toute la culture générale que j'ai apprise pendant cette année. Il paraît que ça donne de la culture générale, mais par contre, j'ai le souvenir de vraiment d'un plaisir intellectuel au quotidien, quoi.
Ouais, carrément.
Voilà,
Et puis, je
effectivement.
pense qu'à partir du moment où c'était, enfin, je sais pas pour toi, mais à partir du moment où t'es avec des amis, bon, bah, tu peux aller à la BU, mais si t'es avec des amis, que ça se passe bien, enfin, je me rappelle être avec un type là, qui est au parquet maintenant, et on faisait BU à Nanterre, il y a une salle de muscu et une piscine, c'est génial, c'est un campus, c'est trop bien. Et du coup, on se disait, ouais, on va bosser, puis après on va soulever de la fonte. Il ne reste pas grand-chose aujourd'hui, mais de la fonte en tout cas, c'est sûr. Mais non, non, franchement, j'adorais ça. Et puis, bon, bah voilà.
Et donc, t'as eu le CRFPA du premier coup?
Ouais.
Bravo.
Oui, bon, après, bravo, je pense qu'il y a une question de chance. J'avais aussi
Un
fait,
peu de
enfin,
tout.
il y a comme tout, j'avais refait une prépa aussi l'été. Voilà, en plaidant vis-à-vis de mes parents de dire qu'il fallait mieux payer une prépa
Plutôt qu'une année
plutôt
de
qu'une année.
plus.
Ils ont été d'accord avec ça. Encore une fois, ils ont bien fait. Mais bon, c'était un pari aussi parce que c'était pas, j'ai pas eu le CRFPA avec félicitations du jury. C'est passé ric-rac. Passé ric-rac. Et puis bon, c'est quand même une histoire de chance parce que enfin, il faut quand même être. Bon, il y a la préparation, mais il y a quand même le fait du jour J. De se lever avec la bonne ambiance ou pas, quoi. Bon, moi, je me rappelle du droit des obligations. Je me suis levé et vraiment, j'ai senti que ça allait le faire. Quel que soit le sujet, ça allait le faire. Et puis, à l'oral, je suis tombé sur un sujet de droit pénal.
La confiance en soi, ça joue beaucoup. Et du coup, à l'IEJ, t'es allé à quel IEJ? Enfin, t'es allé à quelle école?
Pour le CRFPA?
Après l'école d'avocat.
Ah, l'école d'avocat, je suis allé à Marseille.
À Marseille.
Ouais.
Donc, pour rejoindre ta copine dans le sud?
Oui. Alors, parce qu'en fait, quand j'ai eu le concours, j'ai pas, je me suis pas inscrit à l'école tout de suite. Parce qu'en fait, ma copine, justement, enfin, bon, déjà tout l'été, je me suis motivé en me disant, si j'ai le concours, je vais peut-être prendre une année sabbatique.
Parce que là, je viens de beaucoup bosser.
Ouais. Et puis c'était un peu ma carotte. Et puis en plus, je voyais, enfin, tout le monde m'avait dit, une fois que tu rentres avocat, tu n'auras plus jamais la possibilité de prendre des vacances longues, on s'entend.
C'est faux, puisque Sandra Azria nous a montré le contraire. Elle qui a fait une pause d'un an dans sa carrière. Mais c'est pas grave.
Non, mais
Non, mais le fait est
et
que c'est
c'est
quelque
faux
chose
parce
qu'on
que
dit.
moi j'ai des consoeurs qui arrivent à se prendre 5 semaines. Et c'est faux parce que ben, j'ai un pote à Marseille là, qui s'est pris 6 mois. Donc c'est faux en réalité, on peut quand on veut réellement, on peut. Bon, ceci étant
En tout
dit.
cas, c'était ton a priori, et donc tu t'es dit, il faut que je le fasse.
Oui, puis ceci étant dit, il y a quand même un truc, c'est que l'avocat, c'est quand même une grosse dose d'adrénaline, et que moi je suis pas sûr que je pourrais arrêter tout de suite. Enfin, c'est tellement une drogue que je suis pas sûr que je pourrais arrêter demain. Voilà, je suis même pas sûr que je prendrais du plaisir d'ailleurs, ça serait une souffrance horrible. Et donc je prends une année sabbatique et en fait pendant le Master 2 on avait fait un voyage d'études à Marseille, on avait visité les Baumettes, on avait rencontré Laurent Mucchielli, on avait rencontré Sacha Raoult, le fils de Didier.
C'est vrai que maintenant, c'est des noms qui prennent une toute autre, un
Alors
tout
ça,
autre relief
exactement, Sacha
post-coronavirus.
Raoult, c'est aussi un criminologue qui a fait un travail remarquable sur les comparutions immédiates. Il a observé tout le travail des comparutions immédiates et ça reste encore aujourd'hui une base de discussion. Cet après-midi, je plaide en comparution immédiate. Ça reste une base de discussion en fait. Il a dénoncé des choses qui restent encore hyper importantes.
Ouais.
Et puis Brice Grazini, qui est un avocat au barreau de Marseille, et il avait fait un récit du barreau de Marseille, de la vie d'avocat pénaliste à Marseille, que j'avais trouvé génial. Et donc voilà. Et donc, après le CRFPA, je ne m'inscris pas à l'école. Là, encore une fois, c'était pas, il a fallu plaider longuement et longtemps vis-à-vis de ma famille, parce que ça faisait déjà quand même plusieurs années que j'avais commencé, j'avais fait l'IUT dans lequel je m'étais perdu. Les années avaient été un peu compliquées parce que j'étais passé ric-rac, parce que j'avais quand même toujours ce truc de la tentation entre réviser et en même temps aller voir mes potes. C'était quand même toujours un peu le, tu vois, toujours dans cette tension entre oui, il faudrait que je fasse un stage, mais en même temps je pourrais partir en voyage. Enfin, tu vois, voilà. Et donc moi, et le frère de ma copine part. En plus, l'année de mon master 2 en voyage, il fait le tour du monde. Et son récit de voyage m'inspire énormément. Donc du coup, je me dis que, pareil, encore une fois, je peux pas être professionnel, être adulte, si je me suis pas confronté au fait d'être seul à l'autre bout du monde, voilà, sans filet.
Le voyage initiatique.
Ouais, exactement.
Et
Alors,
alors, où es-tu parti?
je suis parti en Asie. Avant ça, j'ai fait un stage. L'année, j'ai fait un stage chez Rachel. Je suis retourné chez Rachel Dindon. J'ai bossé au restaurant Le Polop. D'ailleurs, je vous conseille d'aller manger là-bas, à Paris.
Le comment?
Le Polop.
Pull-up.
Excellent.
Ok.
Et dans le quartier du Sentier. Et puis après, j'ai travaillé. Et après, je suis parti voyager en Asie. J'ai fait le voyage. Je pensais que j'allais faire le voyage que personne n'avait fait. Et je me suis retrouvé sur la route des backpackers avec tous les Australiens.
À faire le même
À faire
voyage que tout le
exactement le
monde
même
dans
voyage,
les
les mêmes
mêmes
routes, dans
auberges
les
de
mêmes
jeunesse.
auberges, à manger les mêmes burgers, à écouter les Red Hot Chili Peppers. C'est vraiment, mais c'est la...
Ça fait partie du voyage initiatique, on
Ouais,
va dire ça.
c'est l'anti-aventure, mais et en même temps, bon, voilà, il y a toujours des histoires qui font qu'à un moment donné, on quitte un peu le trajet des backpackers et puis on se retrouve quand même dans des belles merdes qui font qu'on apprend quand même un peu plus sur soi et sur. Je me suis fait notamment arnaquer et je raconte souvent cette histoire à mes clients en disant vraiment, vous avez en face de vous quelqu'un qui est censé comprendre ce que c'est qu'une arnaque et comment ça fonctionne et en même temps tomber dans le panneau tout de suite, quoi. Et avant de partir en voyage, comme j'avais très peur de ne pas réussir, de pas rentrer de voyage parce que parce que je me disais que ça allait être très compliqué. Et notamment parce que mon beau-frère m'avait dit, il faut vraiment trouver un plan de retour parce qu'il y a des gens qui se perdent en voyage aussi. Quand tu pars comme ça sur la route. Parce que la vie est tellement pas chère et tellement simple. Et bon, et donc, et puis on peut faire du woofing, etc. Donc, du coup, je me suis dit, non, non, moi, ça, c'est pas moi, ça. Donc, il faut que je trouve un stage de retour. Et j'ai envoyé une lettre de motivation à Brice Grazini, qui m'a pris en stage au mois de septembre.
À Marseille, donc.
À Marseille.
Ok.
Voilà.
Donc, parce que moi, je suis pas une grande pénaliste.
Ouais.
Donc, cet avocat Grazini, c'est ça?
Oui. Alors après, il est très connu. Enfin, il est très connu. Il fait partie des avocats de la commission pénale. Il travaille avec Philippe Boulan, qui est un avocat qui a 40 ans de barre et qui fait partie des pénalistes, des noms à Marseille très connus. Qui ont un peu, Philippe Voulan, il a marqué un peu vraiment une génération de pénalistes en montant l'Institut de défense pénale avec Alain Mola. Et ils ont, voilà, ils organisent tous les 3-4 mois une conférence. D'ailleurs, ça serait intéressant que tu y ailles. Je sais pas, je leur dirai peut-être.
On en parlera.
Et en fait, et donc, c'est tous les samedis, ils parlent entre eux, etc. Donc, bon, ça fait partie des noms à Marseille, qui sont.
T'as envoyé des CV à plusieurs noms à Marseille
Non,
ou c'était
j'ai envoyé qu'à lui.
tu voulais
Ouais,
lui?
je voulais lui, puis surtout, il m'a répondu rapidement. Ah, il m'a répondu rapidement, mais pour ceux qui le connaissent, ne sont pas totalement surpris. En fait, il m'a répondu rapidement aussi parce que en fait, il prenait à l'époque pas mal de stagiaires parce qu'en fait, il savait qu'il allait embaucher. Enfin, c'était un peu, il s'était dans ce truc-là, quoi. Et en fait, on était deux, trois stagiaires. Et en fait, je suis arrivé et j'ai vu le planning de leur cabinet. J'ai halluciné. Ils avaient des correctionnels tous les jours, des juges d'application des peines tous les jours, des assises tous les 3 semaines, un mois. Il y avait des dossiers partout, des trucs à faire dans tous les deux. Enfin, vraiment top. Et puis deux profils très différents, Philippe Voulan, c'est vraiment l'avocat à l'ancienne, qui plaide super bien, qui a, ouais, qui a une lecture du dossier, vraiment où il va juste pointer là où il faut. Et puis, Brice Gradzini, qui est plus, voilà, le celui qui est plus dans la procédure, dans l'analyse. Et voilà, vraiment, il m'a appris à raconter une histoire. Tu vois, vraiment dire, en fait, chaque fois, faut raconter une histoire, faut raconter un truc. Et puis après, à chaque fois, ce truc de, j'ai un peu découvert aussi de l'avocat qui reçoit le dossier, qui se dit on est mort, et qui se convainc au fur et à mesure que son client est innocent, qui plaide d'innocence, et qui à la sortie dit oh, putain, j'ai obtenu la relaxe, mais franchement, c'était pas gagné. Et je trouvais ça génial. À chaque fois, il faisait le coup, à chaque fois. Et moi, j'étais là, mais ça passera pas, mais ça passera pas. Et puis, bon, là, il obtient pas des relax tout le temps non plus, faut pas déconner. Mais les deux, trois fois où je me suis dit, c'est dingue. C'est dingue. Ah, bref, voilà, cette étape.
La force de l'autoconviction.
Ouais. Ouais, carrément. Et puis, lui, il est avocat de temps en temps, en tout cas dans ces années-là, il était l'avocat de Laval, l'association d'aide aux victimes, qui était administrateur ad hoc. Donc, administrateur ad hoc, c'est des gens qui sont désignés pour être représentants légaux de mineurs dont les parents sont défaillants. Donc, généralement, c'est des infractions des parents contre les enfants. Et donc, je rencontre l'AVAD et je rencontre une des filles de l'AVAD, enfin, une des femmes qui travaille là-bas. Et très rapidement, je sais que j'ai envie de faire mon stage PPI là-bas. Et donc, du coup, je m'inscris à l'école en disant à l'AVAD, je veux faire mon stage PPI là-bas. Et c'est ce qui s'est passé.
Trop cool. Donc en fait, année sabbatique entre stage et voyage, tu t'assures un retour dans le droit chemin en faisant ce stage, en déposant des candidatures et il se trouve que tu es pris en plus dans un cabinet renommé. Et tu es resté combien de temps dans ce cabinet?
6 mois.
6 mois. Ça a constitué ton stage final? Ou même
Non,
pas?
non, non.
Non, non. C'était 6 mois.
Non, parce
Ouais.
que ben on était deux stagiaires et ils ont pris le premier.
Non, non, mais je t'aurais pu, enfin, je sais pas,
Ah
dans
oui,
ton
non, j'aurais pu.
montage,
Non, 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 non.
t'inscrire
Non,
et... Ok.
parce que c'était, tu vois, entre septembre et janvier, l'inscription
À l'école, c'était...
à Marseille, c'est en septembre.
Ok. Et
Enfin, c'est
donc,
en janvier.
tu intègres l'école des avocats de Marseille.
Ouais.
Et c'est là que... Et donc, tu fais ton stage final dans cette association. Tu fais
Ouais.
jouer
Le réseau.
le réseau de...
Bon, les connaissances après, puis après,
Oui, non, mais
elle m'avait
moi
vu
par
bosser.
réseau, j'inclus le... Enfin, je veux dire, au début, on commence avec le réseau qu'on a, et puis ensuite, un réseau, ça se constitue. Enfin, je veux dire, c'est évolutif, c'est pas juste le réseau... Enfin, voilà,
Ouais.
c'est... Et ce stage PPI?
Trop bien. Vraiment. Alors, le stage PPI, ça consistait en deux choses. Administration ad hoc. Donc, il y avait vraiment du travail un peu de dossier, de préparation avec l'avocat, préparation avec les mineurs, avec la famille, réception, voilà, travail d'explication aussi de ce que c'est qu'une procédure pénale, à quoi ça sert. Voilà, papa, il va être prévenu de ça, maman, elle va être prévenue de ça, qu'est-ce que c'est être prévenu, comment ça va se passer, et vraiment l'explication, et réussir à expliquer en des mots simples à des enfants ce qui va se passer, réussir à expliquer aussi à des enfants l'inexplicable de pourquoi l'affaire est renvoyée depuis 3 ans, bah parce qu'en fait il y a eu les grèves des avocats, parce que le dossier était pas prêt, parce que le dossier était perdu, parce que machin, et en fait de dire en fait la vie c'est ça aussi. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Il y a eu des assises aussi pendant ce temps-là. Des assises qui m'ont, pareil, bouleversé. Et un autre truc, c'était accueil juriste. Donc, en fait, je suis accueillant de personnes qui sont victimes. On leur donne, quand tu déposes plainte, à la fin, on te dit vous pouvez avoir une association d'aide aux victimes. Et il y a deux, trois personnes qui appellent. Et donc là, pareil, leur apprendre les bases de ce que c'est qu'une audience pénale,
Leur expliquer ce qui se passe, quoi.
ouais, l'aide juridictionnelle, et puis expliquer, mais en fait, c'est quand même un travail d'accueillant, donc c'est un travail d'écoute, surtout.
Ce qui est 60% du travail de l'avocat, finalement.
Exactement. Exactement. Alors 60%, je sais pas, parce que nous, on écoute pour synthétiser.
Oui, mais du coup, il faut écouter.
Bien sûr. Mais là, il y a un travail d'écoute, ce qui n'est pas un travail d'écoute pour dans un but particulier, qui est un travail d'écoute dans le seul but d'écouter. Dans le seul but que la personne, elle est enfin quelqu'un, et pas le policier qui a pris sa plainte un peu n'importe comment. Non, qui est enfin quelqu'un qui a compris, qui prenne le temps. On a vraiment du temps, beaucoup de temps. Bon, parfois, du coup, ça prend beaucoup de temps, des fois, aussi, c'est très long. Mais c'est vraiment fondamental. Vraiment, c'est un travail que je peux pas faire en tant qu'avocat, pas tout le temps. Certaines victimes, des fois, j'y arrive, mais j'ai pas le temps comme les accueillants juristes. Vraiment, ils font un travail vraiment top. Ouais.
Et du coup, si tu l'as pas comme avocat, ce qui se comprend, parce que du coup, le travail de l'écoute pour l'écoute, c'est plus ton métier. Est-ce que j'en profite pour faire une ouverture sur maintenant ta pratique actuelle, mais est-ce que tu te débrouilles pour faire en sorte que tes clients aient accès à ça en les renvoyant vers des
Ouais, toujours.
associations,
Ouais.
vers des professionnels psy ou
Oui,
autres
parce qu'il y
qualifiés?
a, y a des psychologues qui travaillent là-bas. Et je leur envoie souvent, enfin en tout cas je leur en parle. Après, c'est à eux de prendre la décision d'y aller
Oui,
ou
bien
pas.
sûr.
Mais je leur en parle tout le temps. Toutes les victimes, je leur en parle. Ouais.
D'accord. Et ce PPI, et ensuite stage final.
Stage final. Et donc j'étais déjà. Donc là, j'étais avec une pote qui était avec moi, Justine Boyadjian, qui était avec moi au PPI et qui. Coup de bol, on est pris en stage chez Christophe Basse et François Mazon, que tu as déjà interviewé avant.
Voilà, et avec qui je viens de prendre un café. Et qui m'a donc demandé qui est-ce que j'interviewais. Je lui ai dit Valentin Laurier. Il m'a dit ah mais je l'ai eu comme en stagiaire. Et là je me suis dit non mais quand même c'est presque frustrant. C'est presque frustrant parce que Marseille c'est quand même pas un micro village et je me retrouve à interviewer l'ancien stagiaire de quelqu'un que j'ai déjà interviewé. Je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast. Quand même sache-le, mais c'est vrai
Surtout que tu viens par des biais qui sont tellement.
Surtout que c'est venu par des biais qui sont complètement différents. Voilà,
Ah
exactement.
ouais, c'est antinomique. Vraiment, entre Clémence et François, il y a vraiment jour et la nuit. Ça se trouve, ils s'entendraient bien, mais là, comme ça, je les mettrais pas. Bref, pas dans la même
Et
case.
donc j'ai regardé François Mazon, c'est l'épisode numéro 45.
Ok.
Et j'invite tous les auditeurs à écouter son interview
Ouais,
qui
il a
est
un
top.
parcours qui est vraiment parti, qui est
Ouais.
vraiment atypique.
Ouais. Et donc tu intègres le cabinet.
Ouais, alors bon, François Mazon sera pas, il sera, et s'il entend le podcast, il sera pas du tout vexé de ça. J'y allais quand même surtout pour Christophe Basse, mais d'ailleurs lui aussi. Hein, c'est
Oui, non, non, mais c'est...
mais bon, j'avais quand même j'étais curieux quand même de rencontrer François Mazon et puis de voir un peu
T'en
parce que.
avais entendu parler?
Oui. Puis après, bon, je suis comme tous les gens de ma génération, quand je postule quelque part, je regarde le site internet, je regarde qu'est-ce qu'il y a. J'avais vu des vidéos de François Mazon, et donc du coup, je savais exactement qui j'avais en face de moi quand j'ai passé l'entretien. Enfin, ouais, je savais déjà un peu quoi répondre à ces questions. Et puis, bah, du coup, Christophe Basse, dont j'avais entendu parler, parce que c'était le collaborateur d'Alain Mola qui était à l'ITP. Enfin, tu vois, après, il y a un milieu aussi de pénalistes.
C'est logique.
Voilà, qui est assez petit et donc dans lequel bon, on verra ce qui va
Tu
se passer.
évolues,
Mais
ouais.
voilà. Alors j'ai Christophe Basse et François Mazon avec du coup Justine et donc 6 mois où j'ai tenté d'apprendre la rigueur.
J'ai tenté d'apprendre
Non
la rigueur, c'est beau.
parce que. Christophe Basse, pour moi, c'est un peu le type qui est vraiment à la virgule près. C'est courrier, c'est à la virgule près. Il peut pas s'empêcher de toujours être à corriger, à se dire que ça pourrait être mieux. Voilà, c'est toujours la recherche de la perfection. Bon, moi, dans mon exercice, j'ai essayé de reprendre ça. Ça fait pas partie de mes qualités premières. J'ai tendance plutôt à dégrossir et à montrer en gros quelque chose, et ça me demande un effort de rentrer dans la précision des choses. Et donc c'était ce que je voulais en allant dans ce stage-là. C'était d'ailleurs ce que je lui avais dit et ce que je lui ai dit à la fin de mon stage. C'est que j'ai pu toucher du doigt le truc de se dire, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Il faut vraiment revérifier 35 fois un courrier quand on l'envoie. Il faut voilà il, on, et on sait, en fait on doute de tout tous les textes enfin on doute de tout les textes il faut les revoir, il y a des réformes, il y a un travail de formation, il faut pas voilà quand il y a une réforme qui passe on doit la connaître et tout de suite faut pas attendre d'être en face du juge et de se dire zut voilà, bon mais bon ça fait pas partie de mes qualités premières.
C'est bien de savoir qu'est-ce qui n'est pas sa qualité première et qu'est-ce qui est plus sa qualité première. Est-ce que dans tes précédents stages, est-ce que parce que du coup tu as quand même travaillé avec d'autres
Ouais.
avocats, ça a l'air de s'être bien passé puisque à chaque fois du coup tu as été recommandé. Enfin, j'ai l'impression que
Ouais, alors ça s'est bien passé. Pour autant, je suis pas un bon stagiaire. Je n'étais pas un bon stagiaire. Ouais, vraiment, je le dis.
tu le vois, tu t'en rends compte maintenant ou tu t'en rendais
Non, je m'en
compte
rendais compte à l'époque.
à
C'était
l'époque?
ouais, c'était
Pourquoi
dur.
t'étais pas un bon stagiaire?
Parce que je suis pas quelqu'un de rassurant. Enfin, quelqu'un de rassurant. C'est-à-dire, si pour mes clients, je suis quelqu'un de rassurant, mais dans le sens où quand je travaille pour quelqu'un, quand un collaborateur ou un stagiaire, il se doit d'être toujours d'avoir un temps d'avance en fait sur les demandes de son patron et autres. Et moi, j'avais du mal à avoir ce temps d'avance-là. Les choses étaient faites, mais trop au dernier moment pour que ça puisse être vraiment rassurant, enfin d'aller jusqu'au bout des choses. Là-dessus, je me suis amélioré. Enfin, surtout, ce que j'ai vraiment senti, c'est qu'en travaillant pour quelqu'un, ce défaut-là devenait c'était un truc qui revenait très souvent.
Exacerbé.
Ouais. Alors que
Et
vraiment,
tu l'as pas avec tes clients? Parce que moi, je trouve que ce temps d'avance qu'il faut avoir avec son N plus 1, c'est un peu le même qu'il faut avoir avec son client. De la même manière qu'il faut pas attendre que son client nous... Alors là, indépendamment de toute profession. C'est-à-dire que moi, maintenant, mes clients, c'est plus, enfin, je veux dire, voilà. Mais j'ai quand même, en tête que plutôt que un de mes clients me demande quelque chose sur une formation ou un truc ou un machin, il vaut mieux que moi, je sache qu'il faut que je prenne les devants. Enfin, tout ce que je veux dire. Et c'est un petit peu pareil avec les, quand on est avocat. Rien de pire que quand un client t'écrit pour te dire, on en est où du dossier.
Ah
Ça
non mais
veut dire qu'il y a un
ça de
défaut dans le
ça de
suivi.
ça de
Enfin,
toute
tu vois.
façon ça moi je l'ai enfin je c'est ce que j'ai appris dans mes stages c'est que il faut jamais arriver à ce niveau-là enfin il faut vraiment tenter d'arriver à ce jamais bon il y a des clients qui sont très en demande mais il faut toujours les rassurer notamment parce que les clients surtout au pénal ils n'ont pas la question de savoir si ça va être des honoraires qui vont rentrer ou qui vont pas rentrer ils ont la question de savoir si leur vie va changer ou pas et c'est un minimum de respect d'avoir un temps d'avance là-dessus. Mais en fait, quand je bossais pour quelqu'un, j'ai conscience de ça, que je me disais toujours, bon, ça va le faire. Alors que le client, je peux pas le perdre. Donc j'ai un temps d'avance parce qu'en fait, j'ai pas de cartouche. Si le client, il n'est pas content, il part
T'as
ailleurs.
besoin d'être en front line pour
Ouais,
vraiment te
carrément.
mobiliser.
Ouais, exactement.
C'est bien de le savoir aussi.
Ouais.
Et ça, tu l'as compris tôt?
Ben, je l'ai compris tôt, oui, je l'ai compris au moment de mon installation. Enfin, ce que j'étais pas vraiment, je me disais, mais comment je vais jamais réussir à être parce que en plus, il y a tellement de schémas, il faut être collaborateur pendant 4-5 ans. Et je me disais, mais je vais jamais réussir à être collaborateur pendant 4-5 ans. Je suis incapable. J'arrive pas à gommer ce truc-là. Et je rentrais vite dans un schéma, c'est un truc sur lequel j'essayais de lutter, donc ça me demandait des efforts. Je pense pas avoir été tout le temps comme ça, mais c'était un truc qui revenait. La culpabilité, en tout cas, que j'avais, c'était de me dire, tu fais ton 9h-18h là. T'es pas en train de te battre. Et ça, non. Depuis que je suis installé, je me suis libéré de ça. Ouais. Tu vois.
Ouais, je vois, c'est intéressant de voir dans quel milieu est-ce qu'il y a certains traits de personnalité qui sont plus ou moins exacerbés,
Ouais.
des structures qui correspondent, d'autres qui correspondent pas. Et mais moi, je pense que je suis un peu comme toi, mais je me demande si maintenant que j'ai été à mon compte. Eh ben, je me demande si maintenant, au sein d'une organisation, au sein d'une structure, j'aurais pas plus de maturité par rapport à ça.
Ouais.
Parce que du coup, je l'ai appris en frontline. Enfin, je l'apprends en frontline puisque je l'apprends encore aujourd'hui. Et du coup, maintenant, je pense que je comprends que, tu vois, quand tu es dans une organisation, eh ben, ton patron, c'est ton premier client. Et si ça se trouve, c'est ton unique client si tu es salarié. si tu es avocat collaborateur, ben c'est ton principal client. Et du coup, je pense que je comprends maintenant mieux cette position de service. Et donc, en fait, quelle que soit la posture, quoi. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire et je pense que j'étais pareil, tu vois.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui notamment, tu vois, qui sont salariés et qui ont une certaine souffrance du manque de reconnaissance ou quoi, parce qu'ils n'ont pas de mobilité, notamment sur leurs horaires. Et qui du coup se calque sur un truc d'arriver au boulot à telle heure parce qu'il faut pointer à telle heure et de partir à telle heure parce qu'il faut partir à telle heure et qu'à la limite il faut rester longtemps pour donner l'impression que tu travailles beaucoup, qu'en réalité si le travail est fait, tu peux partir.
Oui, mais là,
Tu vois,
bah, alors c'est encore une,
c'est encore un autre truc, mais
c'est encore un
un
autre
élément de
truc
motivation.
qui rentre dans le effectivement à quel point est-ce que on a besoin de liberté dans l'agenda et tout, mais je pense aussi que tu vois dans la posture. D'une certaine manière, le fait de rentrer dans une logique un peu de présentéisme et de, tu vois, de faire ses heures et de, voilà, eh ben, c'est la mauvaise manière de montrer qu'on est là et qu'on fait le taf. Alors que si tu switches en mode service, en mode comment est-ce que je peux montrer à l'autre que je suis à son service, que je réponds à son besoin, eh ben, je me demande, je pense que c'est une histoire de posture beaucoup, tu vois.
Oui,
Après, bien évidemment, si à force, t'as jamais de reconnaissance et de
après c'est une
gratitude
histoire
et
aussi de
que, tu
posture
vois,
par rapport à
voilà.
la personne qui t'embauche aussi, enfin,
Bien
tu
sûr,
vois,
voilà.
c'est
Mais,
aussi le management aussi qui fait ça, c'était pas
exactement.
du tout l'idée, hein. Enfin là je fais pas de rien à voir par rapport à mes expériences personnelles, mais bon c'est vrai qu'il y a quand même ce truc là
Non, mais dans la réflexion, c'est vrai que c'est intéressant. Mais ouais, ok. Donc toi, tu t'es rendu compte de ça. Enfin, tu t'en avais un peu conscience. T'es allé chercher plus de rigueur dans ce cabinet parce que tu sentais que t'avais besoin de gagner en rigueur comme avocat,
Ouais.
même dans ta technique, dans ta manière de travailler et
Puis c'est
tout.
quand même une
Et puis
voilà,
une belle
une
maison, et
belle
puis un
maison, c'est quand même
avocat.
toujours bien d'avoir ça sur son CV, mais en fait ne serait-ce que d'avoir ça dans ses relations, voilà, c'est toujours très bien. Et puis voilà, donc on était deux stagiaires et donc à la fin vraiment d'un commun accord on tombe tous les trois d'accord avec Christophe Basse et François Mazon que vraiment enfin je me rappelle un entretien avec Christophe qui m'avait dit il faut que tu trouves les moyens de t'installer rapidement parce que tu ne vas pas réussir à, voilà, après
C'est dur.
ouais,
Tu
t'imagines?
l'avais vécu comment?
J'étais flatté parce que je me disais, il voit quand même que
Ça veut dire qu'il voit ça en
ça veut dire
moi?
qu'il voit sans moi. Et en même temps, je me disais, mais le gars se rend pas compte à quel point je suis incapable d'avoir des clients, d'avoir. Il est gentil quand il me dit ça, mais comment je fais moi? Comment bon. Donc voilà, bon, bah pas voilà. Et puis donc pas de stage, enfin pas de, je sors CFPA, enfin je sors de l'examen.
T'étais inquiet pour toi-même?
Ouais, j'étais très inquiet.
Et
Très,
du coup,
très
à ce
inquiet.
moment-là, qu'est-ce que tu dis? Tu te dis, bon, il faut que je trouve une collaboration quand même, parce que c'est comme ça qu'on fait. Ou est-ce que
Ouais.
tu te dis, là, on a attiré mon attention là-dessus, peut-être qu'il faut que j'aille faire
Ouais, mais en
ça?
même temps, je voyais pas à Marseille dans quel cabinet j'allais rentrer, dans quel cabinet ils allaient me donner la possibilité de développer ma clientèle parce que c'est ça qui est important. Et donc, du coup, je me dis, il faut que je trouve une collaboration atypique. Un truc soit dévolante, soit.
Des volantes, c'est quand on te sous-traite des dossiers ponctuellement.
Ouais,
Ok.
ouais. Et ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup quand tu t'installes en fait. Tu bosses souvent pour des consoeurs qui partent en congé maternité ou des congés maladie, quel qu'il soit, ou une augmentation ponctuelle de travail. Voilà. Et donc des dossiers à bosser, des synthèses à faire. Donc bon, je me dis ça, mais bon, j'avais pas d'argent sur mon compte, hein. Donc bon, puis après c'est pas avec les années de stage et autres. Puis bon, mes parents depuis le début ils sponsorisent, mais bon, ils commencent à trouver le temps long, quoi. Puis en plus, bon, pourquoi je suis parti à Marseille, machin. Donc voilà. Et je passe un entretien. Je dois le signaler quand même. Plusieurs entretiens. Enfin, plusieurs entretiens. Ça m'est arrivé deux fois, mais deux fois de trop. Où le confrère me dit, pas de souci. On te prend, on te rappelle. Et ils m'ont jamais rappelé. Bon, ça existe aussi. Donc il faut, voilà.
Et c'était écrit?
C'était pas écrit, mais c'était une
C'était
poignée de
dit?
main.
Ouais.
Et bon.
J'ai une cliente
Okay.
Alors, je dis ça, elle était tellement vénère parce qu'il lui arrivait un truc un peu comme ça. Et alors, elle avait une trace écrite. Et puis ensuite, plus de nouvelles sur sa date de début. Mais genre, pas de nouvelles, pas de réponse aux textos, pas de réponse aux emails et tout. Et elle était trop vénère. Et elle a dit, non mais franchement, je m'en fous, j'irai le chercher au Conseil de l'Ordre pour une semaine de... ou un mois, je sais plus, okay.
de
rétrocession d'honoraires. Parce que en fait, on a signé. Moi, je considère qu'on commence la collaboration et après, ben, il me vire. Enfin, tu peux dire. Et du coup, il y a genre le, je sais pas quoi. C'est le minimum du préavis si j'avais commencé et que finalement, ça s'était terminé tout de suite et que voilà. Et il se trouve que finalement, ça s'est pas fait. Mais elle était tellement énervée de ne serait-ce que d'un point de vue relationnel de cette légèreté dans l'embauche et le non suivi.
Ouais, je sais pas, les confrères qui ont fait ça, ils se rendent pas compte. Enfin, moi j'étais j'étais tellement perdu, il faut pas non plus j'étais pas en PLS ça va. Mais bon j'ai pas d'argent de secours quoi. Vraiment j'ai vraiment pensé encore plus mon expérience en tant que serveur au Pôle Up, j'avais adoré. Je m'étais vraiment dit, bon, à ce moment-là, si je trouve pas de boulot, je retournerai faire du service. Enfin,
Et ça a duré combien de temps, cette recherche de collab? Enfin, de...
Ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais ça a été tellement éprouvant que j'ai l'impression que ça a duré 3 ans. Ça a duré 1 mois et demi, je pense.
1 mois et demi?
Ouais. mais, non, mais tu vois...
Non, mais je rigole maintenant, mais je sais à quel point c'est dur.
Et oui, ouais. Parce que tu sors de ton truc, et puis, j'ai vu des expériences de stage qui s'étaient bien passées. Enfin, en tout cas, des gens qui étaient prêts à me recommander.
T'avais un superbe CV quand même par rapport à ta spécialité.
Bah oui, j'avais fait master. Bon. Ouais. Après, spécialité, le problème en Provence, c'est qu'en réalité, c'est difficile d'être uniquement pénaliste. Et là, moi, aujourd'hui, dans mon exercice, je peux pas me réclamer comme pénaliste à 100%. J'ai entendu une interview, je sais plus, de confrère de Poitiers, je sais plus comment il s'appelle. Qui disait que...
Aurélien Bourdier.
Voilà, qui disait qu'en réalité, quand on est avocat en province, on est avocat de personne et que les gens viennent via le pénal et qu'après, bon, il faut quand même savoir gérer le JAF, le droit social, il faut savoir gérer ça.
Après, c'est des histoires de choix parce que tu vois, regarde Karine Deluca. Enfin, ouais. Moi, je suis pas en interview pour challenger les gens sur leur business model et sur comment ils travaillent. Tu vois, c'est pas mon boulot. Mais Karine Deluca, qui exerce dans le Jura, elle fait exclusivement du droit de la famille.
Okay.
Je pense qu'elle fait très très peu de pénal, ouais, très très peu de voilà.
Droit de la famille, je pense que c'est plus simple. En droit pénal, c'est compliqué. Enfin, je sais pas.
J'ai interviewé une autre consœur à Poitiers, dont j'effuserai l'interview bientôt, qui elle fait que du droit pénal. Mm-hmm. Et si elle touche à du droit de la famille, c'est que parce que c'est des conséquences d'un dossier pénal.
Ah oui, non, mais je te dis, les gens viennent au pénal et après les conséquences du truc, tu vois. Bon,
mais par exemple, Aurélien Bourdier, il fait aussi des accidents de la route ou du droit routier, tu vois. Lui, il a aussi une activité qui est annexe au droit pénal. Ouais. Mais ce qui n'est pas le cas, par exemple, de cette avocate qui se considère comme pénaliste, elle fait ponctuellement, encore une fois, du droit de la famille, si c'est une conséquence de la mesure pénale. Mais c'est pas comme si elle développait sur plusieurs, tu vois, il y a jamais une personne qui vient la voir pour un divorce, quoi. Ça n'existe pas.
Qu'on soit clairement non plus, hein. Et puis d'ailleurs, en plus, l'organisation qu'on a au cabinet, on est tous indépendants, mais quelqu'un qui vient pour moi, pour le droit de la famille, que je connais ni David ni Adam, c'est une autre consoeur qui s'en occupe.
Ouais.
En droit immobilier, c'est pareil. En droit de la consommation, c'est pareil. Et on fonctionne comme ça. Donc voilà. Puis surtout, je veux pas, chaque spécialité a tellement, s'improvise pas travailliste, quoi. Et non plus au JAF. Donc, c'est à chaque fois des conséquences, mais n'empêche que, bon, uniquement du pénal, en début d'exercice, c'est quand même compliqué de faire que ça, quoi.
Donc on en revient à la difficulté de ta recherche de collaboration.
Ouais.
Et donc, tu le vis très difficilement. T'as ces deux poignées de main qui en fait ne débouchent sur rien.
Exactement.
Donc à chaque fois tu te remets à chercher.
Ouais. Après j'ai appris quand même que ces confrères-là étaient connus pour faire ça. Donc en fait c'était pas lié à moi aussi. Et puis une offre de collaboration complètement atypique d'un cabinet parisien qui veut monter un cabinet à Nice. C'est un cabinet de droit pénal des affaires et ils veulent monter un cabinet secondaire en faisant le pari de dire on va embaucher quelqu'un en sortie d'exercice, enfin sortie de CRFPA, on va le former et on va monter un business là-bas. Et je passe les entretiens et j'ai un bon feeling avec l'équipe. Et donc je me retrouve alors que
Tu déménages à Nice.
et alors je alors voilà et alors que toute ma alors que ma copine est ici et voilà que mes amis sont ici que ça fait que c'est déjà à 1200 km de la Bretagne que c'est déjà voilà je me dis
En plus, Nice, quoi.
ouais
C'est
c'est
loin.
loin c'est super loin c'est encore même Nice-Marseille enfin, je l'ai appris plus tard mais Nice-Marseille c'est compliqué à faire c'est 2h30 de route quand tout se passe très très bien c'est-à-dire à 3h du matin tu fais 2h30 sinon tu mets 5h. Et donc, bah,
Tu y vas.
challenge, c'est parti. Je vais là-bas. Je rentre dans un
C'était
cabinet.
un vrai choix ou t'avais juste peur de pas trouver et tu t'es dit non, là
Alors
j'ai une opportunité, il faut
j'avais
que je
peur
la
de pas
saisisse.
trouver, ça c'est clair. Mais en même temps, je trouvais le challenge, je le trouvais complètement dingue.
Ouais.
Et puis en plus, j'avais encore mes pâtes à Paris. Donc je me suis dit, ouais, je vais faire une semaine à Paris, puis après je vais faire 2 jours. Le but et donc j'ai dit à ce cabinet-là, OK pour Nice. Mais je veux que vous me laissiez la possibilité de télétravailler 2 jours à Marseille parce que c'est là où j'habite et c'est là où j'ai ma copine et autres. Bon, il se trouve que ce choix-là ou pas, je me suis retrouvé voilà, à partir à Nice. Et en fait, le défi était mais 10 fois trop élevé pour nous tous. C'était tellement gonflé. Que ça a fait pchit très rapidement. Enfin, c'était une
Comment
super
ça,
bonne
ça a
idée.
fait pchit très rapidement?
Parce que déjà, j'avais ce problème que j'avais pas réglé de pas être en front line et de toujours
D'être un
voilà
collaborateur?
donc d'être un mauvais collaborateur de l'époque. Et je te rejoins sur le fait que peut-être que demain, si je rejoignais un cabinet en tant que collaborateur, parce que je travaillerais différemment. Mais à l'époque, en tout cas, voilà. Deuxième chose, eux avaient, je pense, un peu sous-évalué la difficulté d'avoir un collaborateur loin et un peu sous-évalué le truc de se dire, ils avaient pris quelqu'un dont ils savaient que j'étais indépendant, mais j'étais pas autonome. Et j'avais pas, tu vois, tu apprends la comptabilité, le truc, enfin, tu dois gérer ton truc, tes inscriptions, tes machins. Voilà.
C'est-à-dire qu'à la fois, tu as ta montée en compétences techniques à faire parce que tu n'es qu'un jeune collaborateur. Et en plus, on
T'auras
te
pas mis des
demande de...
affaires
Ouais,
techniques en plus, hein.
voilà.
Un truc que j'avais, enfin, que j'avais pas vraiment fait
Oui,
jusqu'ici.
toi, tu avais été plus du pénal des personnes.
Alors, chez Bass, j'avais fait droit pénal des affaires un peu, mais il m'avait quand même plus orienté vers droit pénal des personnes, parce que c'est ça qui me plaisait le plus. Et donc, non, mais ça le faisait
Là,
pas
tu
du
t'es
tout.
trop, tu t'es retrouvé dans un environnement hostile. J'appelle ça un environnement hostile, c'est-à-dire un environnement où tu as très peu de ressources
Tu
pour
n'imagines
répondre
même pas, tu n'imagines
aux
même pas,
enjeux.
parce qu'en fait, le
Ça te
truc,
correspond
c'est
pas.
que
C'est
j'avais
pas
du coup mon
favorable.
loyer à payer ici, mon loyer à payer là-bas. Bon, le type chez qui j'étais, parce qu'ils avaient loué un bureau, voilà, le type chez qui j'étais, c'était un vrai Niçois. Un vrai Niçois aux idées politiques tranchées, inverse des miennes. Voilà, un tribunal que je connais pas, donc je connais pas non plus comment faire diligence, je sais pas. Alors qu'au pénal, c'est hyper important, enfin, c'est hyper intéressant. Dans un monde, Nice, qui est quand même très particulier, t'as Monaco à côté, t'as un truc, et qui est très bling-bling, et qui est vraiment très loin de ma personnalité, enfin en tout cas de ce que j'ai envie, de ce que j'aspire. Donc bon, bref. C'était pas une catastrophe, mais c'était quand même franchement compliqué. Non, c'était trop dur.
Et du coup, comment ça s'est passé avec le cabinet parisien?
Ben, ça s'est passé que eux-mêmes ont été rachetés par un autre plus gros cabinet. Je crois que de toute façon l'associé voulait un associé unique. Il avait ce projet-là de en fait je pense depuis le début. C'est quelqu'un qui tente plein de projets, qui est très ambitieux mais dans le bon sens du terme. Je cite pas son nom pas parce que c'est juste parce que je sais pas s'il a envie de que je cite son nom pas donc
Il n'y a
c'est
pas de mal.
voilà mais vraiment je l'apprécie énormément et et puis en fait et alors le truc qu'il pouvait pas non plus se douter c'est que je me suis inscrit sur la liste de défense pénale d'urgence mais ça je leur avais dit hein. Je leur avais dit que je voulais m'inscrire là-dessus parce que c'était ça que je voulais faire depuis le début. Sauf que j'ai vraiment été piqué, quoi. La première comparution immédiate, mais c'était génialissime. Un truc, trop bien. Trop bien. Pour la première fois, le client en face, j'avais l'impression de jouer à la dinette. Enfin, tu vois, pour la première fois de vraiment enfiler la robe et de vraiment, voilà, te lever et d'entendre le silence et te dire, eh ben voilà, ça y est, mon gars. Il n'y a plus que toi là dans la salle. Il n'y a plus que toi à parler. Et cette histoire de comparution immédiate où je tombe en plus sur une affaire de matrone qui a un salon de massage chinois. Et donc je me retrouvais à plaider pas n'importe quoi, mais bon, quand même des trucs assez tendancieux. Bon, et bon, ça se passe très bien, vraiment très très bien. Mais j'avais demandé à la dame de faire envoyer le dossier parce que j'avais besoin de préparer le dossier. Je me sentais pas prêt. Et elle me dit, mais non, pas de souci, allez-y. Enfin, elle m'a dit ça en plus dans un français très approximatif, avec un interprète qui est interprété avec que ce qu'il avait envie et pas les choses sexuelles. Enfin bref. J'ai vraiment adoré ça. Les gardes à vue, d'être appelé à 2 h du matin, d'arriver, de rencontrer un type, connaître son
Donc en fait,
histoire.
en parallèle, tu as été piqué par le droit pénal que tu veux faire, quoi.
Ouais, carrément. Et
Tu as été
bon.
rappelé à qui tu es.
Exactement, ouais. Et donc voilà, et donc bah en fait rapidement, c'est-à-dire quoi, au partir du mois de, tu vois, je rentre en collab le mois de janvier. Enfin, j'avais commencé au mois de novembre, donc tu vois, ça a duré 1 mois et demi ma recherche. J'ai rentré au mois de novembre, décembre, et ouais, on a dû arrêter la collaboration vraiment de manière vraiment intense au mois de mai, et ça a glissé comme ça juin, juillet, mais sur une collaboration qui était plus en où eux ils me disaient bon bah écoute voilà trouve ta
Ils ont
solution.
été sympas,
Ils ont été hyper sympas. Oh ouais, ils ont été hyper sympas.
classe.
Ouais. Très classe parce qu'en plus, ils m'ont filé un dossier en partant. En disant, voilà, parce que j'avais voilà, un dossier du Sud. Et non, vraiment, top. Et puis, ça a permis vraiment de me définir, quoi, de savoir ce que j'avais envie de faire. Et, mais.
Oui, donc là, tu étais au clair, quoi. Droit pénal des personnes
Ouais.
à ton compte
Ouais.
à
Alors oui, mais
Marseille.
sauf que non, parce que à mon compte, d'accord, mais sauf que j'ai toujours pas client. Enfin, il faut bien quand même que j'avais pas de sous de côté. Donc bon, après, si j'avais eu besoin, encore une fois, mes parents seraient là.
Oui.
Mais bon, j'avais envie de gagner ma vie quand même. Et le type chez qui j'étais à Nice, qui était aussi une crème, vraiment très sympa.
Donc là, le niçois-niçois,
Les
un
Niçois,
trait niçois.
Niçois, ouais. Les Niçois ne m'en veulent pas, mais bon, ils vont, voilà. Si jamais ils me demandent, je leur dirai, oui, ils sont. Bref. Et en fait, lui, il m'a dit, bah attends, mais j'ai un pote. Enfin, je travaille avec un gars à Marseille. Faut voir. Peut-être il y a peut-être un cabinet. Il a peut-être une place dans son cabinet. Il a de la place, machin. Et donc, du coup, il me présente. Enfin, il appelle Christian Bélaïs, chez qui je suis aujourd'hui. Donc au bout de 6 mois, donc je viens rencontrer Christian Bélaïs, je lui présente la situation. En gros, j'ai 6 mois de barre, j'ai pas envie de rentrer dans une collab. Bon, en tout cas, à chaque fois que je passe un entretien, j'affiche tellement peu de motivation que c'est clair que en sortant, je me dis les gars, s'ils me prennent, enfin ici, voilà. Et lui me dit mais non, t'inquiète, vas-y, installe-toi, ça va le faire. Moi, j'ai eu besoin de 2, 3 dossiers pour me lancer, mais tu vas voir, ça va partir. Bon. Je suis passé voir
Le
Christophe
conseil
Bass.
kamikaze.
Hein?
Le conseil kamikaze.
Eh ben non,
Non,
il avait
non, mais.
raison.
Non, 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 mais je dis,
Ouais.
c'est le conseil de. Qui fait peur, quoi.
Ah ben oui.
Tu viens voir donc l'avocat ici, qui s'appelle, rappelle-moi.
Christian Bélaïs.
Christian Bélaïs, et il te dit, deux, trois dossiers, ça suffit, moi je me suis installé comme ça va
Ouais.
le faire, installez-vous.
Ouais.
Et là, tu vas voir Christophe Bass pour lui en parler aussi.
Ouais, et pareil, il me dit la même chose. Il me dit bah, vas-y, lance-toi un garçon, vas-y, machin. Et puis il me dit bon, en plus tu tombes bien parce que là je viens d'avoir un coup de fil pour un dossier dans une autre ville, un dossier important, un dossier criminel. Et va voir le client là tout de suite là. Bah tiens, t'as qu'à prendre un train là dans 1 heure, tu y vas. Et donc et ce dossier-là a été pour moi un dossier sur lequel j'ai pu avoir une première vision, et en tout cas j'avais quelque chose à faire, et un premier et puis surtout un premier dossier de dire en fait si Christophe Bass m'accorde cette confiance-là, je peux y aller quoi, en fait c'est bon, je vais trouver des trucs à droite à gauche, ça va le faire. Ça m'a donné une confiance en moi importante. Il a fallu que je prenne des décisions importante dans ce dossier, décision dans laquelle j'ai encore jamais eu à être autant confronté à vraiment pas pile ou face sur une vie, mais quasiment. Et bon
En termes
après,
de stratégie, de
ouais
dossier,
ouais ouais
de...
ouais Et puis voilà, puis après, bah, ce dossier-là, il continue encore. J'ai encore l'avocat.
Tu pilotais un petit peu avec Christophe Bass ou pas du tout?
Et ouais, et en fait, il me dit, en fait, prends-le, et puis on se fait co-désigner dessus pour m'apporter l'appui suffisant, parce que moi, je pouvais pas prendre des décisions comme ça tout seul, à part après 6 mois de barre. C'était pas possible. D'ailleurs, même aujourd'hui, je pourrais pas, je pense pas.
C'est un super deal parce que ça te correspond vachement, t'es en front. Et en même temps, t'as le plaisir et et l'utilité d'avoir un avocat qui vient t'apporter de l'assise
Ouais, que je
et
peux
qui vient te
consulter,
mentorer sur ce dossier.
à qui je peux raconter mes grandes questions, à qui m'écoute, qui m'apporte le soutien. Je crois vraiment que quand on s'installe, on n'est pas obligé d'avoir un tuteur, mais on peut en avoir plusieurs, comme moi j'en ai eu. Mais c'est difficile. Enfin, je pense vraiment que pour s'installer, c'est plus facile quand on a plusieurs personnes quand même qui nous guident, qui nous aident. On sait que putain, passer un coup de fil. La semaine dernière, là, j'ai eu beaucoup de questions, de questionnements sur la manière d'exercice et autres. Je suis allé boire un verre avec une copine et voilà. Et elle a 3-4 ans de barre de plus que moi et elle me guide là-dessus, quoi. Et c'est quand même ça, c'est génial. Voilà.
Génial ce dossier. Et donc ce dossier, c'est ce dossier qui t'a permis de t'installer,
Oui,
où tu t'es autorisé toi-même?
parce que ça me donnait en fait, j'ai dit au client, ne me payez pas tout d'un coup, mais payez-moi régulièrement, étalez le paiement. Et du coup, moi, déjà, ça a permis au client de me payer. Et puis surtout, ça a permis de moi d'avoir une visibilité financière. Tu vois, un truc sur plusieurs mois où je me disais, bon, même si j'ai pas grand-chose, j'aurais toujours ça.
Comment t'as déterminé les honoraires pour ce dossier?
C'est avec Christophe. Enfin, je lui ai dit est-ce que tu penses que enfin ça prendra combien de temps? Est-ce que tu penses que machin? Et puis en fait comme ils avaient appelé Christophe il fallait que je me fixe par rapport à ce que lui aurait pu demander, sachant que lui il a dit tout de suite enfin voilà, on a déterminé ça ensemble.
Génial. Du coup, t'as aussi été aidé là-dessus.
Ouais,
Ce qui est
ouais.
un gros sujet.
Ce qui est un gros sujet parce que effectivement et puis la détermination des honoraires, c'est clair que c'est un gros sujet parce que c'est la condition sine qua non d'une installation réussie, c'est de savoir qu'en fait oui ok je sais pas moi 1 000 euros pour aller en comparution n'importe laquelle au tribunal, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité il y a pas, enfin ça peut paraître beaucoup en tout cas quand on est en début d'exercice, mais en réalité il y a un tel travail avant de préparation du client, si le type est en détention. Et puis en fait, la peine, des fois, il faut continuer d'aller voir le type, il faut qu'on et les gens vont pas repayer pour aller faire le premier entretien avec le juge d'application des peines, un entretien, comme t'es pas pénaliste. Voilà, et en fait, il faut prendre en compte tout ça. Et en réalité, ouais, ça m'a quand même pas mal aidé. Et donc je m'installe, et puis en plus, et là, il se passe un truc, c'est qu'à Marseille, il y a des manifestations qui commencent. Les gilets jaunes pointent leur nez
Ça, c'était quand?
en 2018.
Donc c'est tout récent, ouais.
Ouais. Et en fait, j'ai un pote d'un pote qui fait partie des manifestants parce qu'il y a une place qui a été rénovée, la place de la Plaine. Il y a eu beaucoup de manifestations contre cette rénovation parce que c'est une opération dénoncée comme étant une opération de gentrification. Qu'on ait des idées politiques favorables ou pas, en tout cas, il y a eu des manifestants. Et on a obtenu une relaxe parce que le dossier était vraiment symptomatique d'une poursuite, simplement pour faire peur, c'est-à-dire que mon client il avait simplement jeté un œuf sur des policiers et qu'il était poursuivi pour ça et que les œufs n'avaient même pas atterri sur. Bref. Et donc, du coup, mon nom.
T'es pas obligé de replaider le
Non,
dossier.
non,
En
pardon,
tout cas,
excuse-moi.
à la faveur de cette manifestation, tu as eu un client.
Du coup, j'ai eu un client. Et du coup, mon nom est passé dans le nom des manifestants. Et du
Et
coup, les
là,
manifestations
bouche
gilets
à
jaunes ont
oreille.
commencé. Je suis intervenu régulièrement pour eux. Je n'étais pas l'avocat des gilets jaunes. J'étais l'avocat de quelques gilets jaunes sur des week-ends. Parce que c'est souvent le samedi qu'on appelait. Et le lundi, j'étais en comparution immédiate. Le barreau de Marseille a accepté que j'intègre la liste de défense pénale d'urgence parce que j'avais fait la formation à Nice. Et voilà. Et après, ça a démarré comme ça. Voilà.
Quelle est ta relation du coup avec
Je suis en locaux contre service.
qu'au contre-service.
Ouais. Donc je travaille une journée un peu en, voilà, c'est à peu près ça, c'est ça qui est convenu. Une journée par semaine pour lui et je paye pas le loyer.
Tu fais du droit pénal pour lui?
Ouais, essentiellement. Mais aussi ces dossiers sur lesquels ça fait longtemps qu'il n'a pas repris. J'apporte une vision différente sur le dossier, quoi. Voilà.
Ouais, c'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant parce que finalement,
donc c'est pas juste de l'exécution.
Non.
C'est aussi, il peut te confier un dossier en mode autre
un
regard.
Dossier, j'apporte un éclairage qui est à chaque fois suivi sur la stratégie à mener. Ouais. Donc voilà. Et puis après le bouche à oreille, les confrères qui renvoient des dossiers, tes confrères en permanence qui disent j'ai un dossier, je sais pas comment le gérer, est-ce que tu peux le reprendre? Et puis voilà.
Ouais.
Ça fait 2 ans.
Christophe Bass, vous avez encore ce dossier actif ensemble?
Ouais.
Est-ce qu'il t'a envoyé d'autres dossiers?
Pas de mémoire. Mais on a encore. Je crois pas. Non. Mais j'avais un dossier. Du coup, j'avais un dossier de la société pour laquelle je travaillais, un dossier là-dessus. J'avais quand même des dossiers qui apportaient quand même un peu une base en tout cas. Et puis après, la défense pénale d'urgence, qui est quand même. Ouais, quand on est volontaire et qu'on est capable d'y aller tout de suite, on peut être en renfort, on peut être. Ouais. Ouais.
Et donc aujourd'hui tu es à ton compte.
Ouais.
Dans une configuration qui effectivement est un petit peu originale puisque du coup tu as ces locaux.
Ouais.
Donc locaux contre service. Tu as ce dossier en partenariat.
Oui, alors après le dossier il est là aujourd'hui, il est un peu dans une phase, il est un peu plus endormi. Mais
en tout cas,
il y a
voilà.
Après il y a plein d'autres dossiers qui sont. J'ai été appelé aussi par Nice quelques fois par le mec chez qui j'étais et puis voilà, puis ça s'est fait comme ça au fur et à mesure, tu vois. Et puis après défense pénale d'urgence, après c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que bon, sur les 20 que tu vas défendre,
t'en as un
qui revient, qui refait des conneries, qui appelle un pote, qui machin, qui truc.
Voilà. Bouche à oreille.
Ouais, bouche à oreille. Voilà.
Ben bravo.
Merci. Bah.
T'es content?
Ouais, je suis content, carrément.
De toute façon, si t'es là, théoriquement, c'est que t'es épanoui.
Après, je suis bien dans ma robe, il paraît. Non, très bien. Après, ça veut pas dire pour autant que je doute pas, à chaque instant.
C'est quoi tes doutes?
Bah, c'est sortir d'une audience et de se dire, j'ai été à côté de la plaque. C'est ça arrive tout le temps. À l'IDP, là, j'avais entendu un type qui parlait de l'échec en droit pénal. C'est quand même, nous, on est quand même toujours en train de se prendre, c'est pas des échecs, mais bon, on est quand même tout le temps avec un truc où on plaide quelque chose, on est là en train de plaider un truc, et bon, il y a des gens qui partent en prison, donc il y a des fois, je me dis, bon, est-ce que j'ai été bon, est-ce que j'étais. Mais ça, c'est ça aussi qui me plaît dans ce métier, c'est-à-dire que quand j'étais avec Philippe Voulan, les assises, je le vois, il me sort, il me dit, j'ai été bon, mais je dis, j'ai pas été bon. Voilà. Et ça, je trouve ça génial. Après 40 ans de barre, le type, il me demande, alors que j'étais même pas avocat. Et il était capable de dire, en fonction de comment j'avais hésité, qu'il se dit, je peux pas plaider comme j'aurais dû plaider, quoi. Ça, je trouve ça génial, parce que tu es toujours, dans toute cette profession, on est toujours en train d'apprendre. Toujours des trucs je trouve ça génial. Ouais, vraiment génial.
Et donc des doutes plus liés à toi comme avocat plutôt que la forme d'exercice, la rentabilité de ta structure, ton avenir comme.
Alors je touche du bois de ce côté-là. Pour l'instant ça va.
Ça va.
Pour l'instant ça va et je suis très content. Aussi j'ai pas des prétentions financières énormes. Je fais attention aussi, je suis plus fourmi que cigale, donc ça fait partie aussi de. Mais bon, ça fait partie. Je veux pas avoir des fins de mois stressantes, donc je fais attention. Alors là, l'exercice au futur, ce que j'aimerais, c'est quand même pouvoir partir en vacances sans stresser, c'est pouvoir partir en week-end sans avoir de portable qui pourrait faire que de la seconde. Je passe de Valentin avec sa famille machin à Maître Loret. Ça j'aimerais bien au futur ça j'aimerais avoir plus de liens entre nous ici, je vais essayer de favoriser ça.
Donc ici dans les locaux,
ouais, parce qu'on est tous indépendants, Et après, du coup, après chacun, on essaie de. Bon, il y a d'autres qui, il y a certains qui sont très très indépendants, qui vraiment sont dans leur bureau et on va quasiment jamais. Et puis d'autres qu'on sent avec qui on a envie de travailler. Il y a une consoeur qui intègre le cabinet au début octobre, là, qui va apporter une nouvelle touche. Et puis là, récemment, là où j'ai eu vraiment une grande question, c'était pendant le confinement. Parce que j'étais en colère contre les magistrats, en colère contre mes confrères, en colère contre moi-même, parce qu'on a laissé complètement tomber les gens. Et je voyais pas comment canaliser cette colère-là sans me retrouver à faire de l'outrage à magistrat ou à me retrouver en procédure de délicatesse à l'ordre. Et là encore une fois, vraiment, j'ai eu une stagiaire au mois de février. Là, elle est venue et je lui ai demandé de me donner un peu son
Sentiment.
retour, son sentiment sur la façon de. Et elle me dit, c'est fou le temps que tu passes au téléphone avec tes confrères. Et c'est vrai que je passe énormément de temps avec mes confrères parce que j'ai vraiment besoin d'un avis extérieur sur mes dossiers, de machin. Et ils acceptent ça et j'accepte aussi de me donner mon avis sur leur dossier. Et du coup, là, pendant le confinement, j'ai appelé un confrère qui est ma référence en termes d'éthique, de combat et autres. Et je lui ai vraiment demandé qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on a envie d'envoyer des patates à tout le monde parce qu'on n'en peut plus de l'exercice. Et il m'a dit, je pense que pour toi, ce qu'il faut, c'est que tu intègres le SAF. Ça permet de canaliser tes colères, de les construire et de retrouver des gens qui vont partager aussi des combats avec toi et qui vont partager l'idée que voilà qu'on peut pas qu'on que qu'en fait. Qu'on doit d'abord, avant tout, assurer la vie de notre cabinet. Ok, c'est très bien. Mais en fait, moi, mon exercice, je le conçois comme étant. Enfin, la défense des libertés, pour moi, c'est quelque chose de vraiment d'important. C'est pas. C'est un truc sur lequel j'ai envie d'investir plus de temps et plus d'énergie. Voilà, en me disant,
Donc maintenant, tu as un espace de lutte
Ouais,
qui
de
est...
lutte et qui permet d'éviter de me retrouver. Vraiment, j'ai fait ça. Pour éviter de me retrouver poursuivi pour outrage. Vraiment, je sentais que ça allait partir
T'as
là-dessus, quoi.
transvasé une énergie.
Ah ouais, j'étais trop en colère, ça m'a mis trop en colère.
Et ça va mieux maintenant?
Oui, après, je reste.
Tu es toujours en colère, mais tu as
Voilà.
un espace où
Mais
tu
j'ai un espace dans
peux...
lequel je peux en discuter avec d'autres gens et on peut construire une stratégie pour que ça change. Voilà. Et ça, j'invite confrères à le faire, que ce soit le SAF, que ce soit
Donc à
l'UJIA, que ce soit.
s'engager, quoi.
Ouais, à s'engager, ouais, carrément. À l'ordre, n'importe où, mais mine de rien, ça permet en plus de discuter avec d'autres confrères, quoi. Et d'avoir un réseau en plus supplémentaire, mine de rien.
Oui. Et en termes de... Pour ton cabinet, tu veux continuer là-dessus du droit pénal des personnes. Tu disais que tu interviens dans d'autres matières ponctuellement quand ça découle d'un dossier pénal.
Ouais.
Donc un petit peu comme Anne-Sophie de Poitiers que
Ouais.
j'ai interviewée.
Voilà, et puis après on verra, on va voir ce que
Après,
ça,
on verra.
ouais, voilà, on va voir ce que ça va passer. Ouais.
Ah, mais c'est super. Et puis, je trouve ça. Après, il y a un truc qui attire mon attention dans ce que tu dis, qui est quand tu dis, voilà, après, que tu n'es pas dispendieux, que tu fais attention, que tu es plus fourmi
Ouais.
que cigale. Et comme j'ai discuté donc avec François Mazon ce matin, on a beaucoup parlé de développement et de cet état d'esprit, en fait, de l'avocat entrepreneur et tout ça, qui est un thème qui lui est cher et qui m'est cher aussi et qui m'est d'autant plus cher que j'ai une formation sur le développement de clientèle et donc on parlait de tout ça et c'est vrai que il y a un truc dans l'état d'esprit qui est de pas non plus tomber dans le truc où on se contente de tu vois on se dit qu'on voit petit en termes de chiffre d'affaires. Puisque ça n'a rien à voir avec l'ambition professionnelle, tu vois. Parce qu'on se dit, ben non, après, voilà, ça va, parce que je fais attention, et que si, et que ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et de s'autoriser aussi à se dire, ben, ça peut aller, et ça peut aller genre bien, enfin.
Oui. Non. Après, le truc, c'est que en termes de chiffre d'affaires et de rémunération, là, en fait, la question, c'est aussi de, en fait, moi, ce que j'aime plus que tout, et c'est pour ça que je suis resté à Marseille, c'est d'aller à Malmousque me baigner. C'est le truc qui me fait, c'est le truc que j'adore. Voilà. À la fin de ma journée, je peux prendre mon vélo et je peux aller me baigner à Malmousque. Et ça coûte rien. Il y a un coucher de soleil, c'est son et lumière tous les soirs. Et ça, bon, ça, une bière, un sandwich, et c'est tout, quoi.
Non, c'est, je comprends ce
Voilà.
que tu veux
Et
dire.
donc, en fait, c'est plus ça. Et après, je pense pas mon métier comme ça, mais je vois aussi par rapport à mes potes. J'ai des potes qui gagnent mieux leur vie que moi en ayant fait d'autres choses. J'ai des potes qui gagnent moins bien leur vie que moi en faisant d'autres choses. Mais bon, de toute façon, moi, ce dont on a, nous, avocats, comme avantage, c'est qu'on a une liberté. Et c'est qu'on est, enfin, moi, en tout cas, je suis indépendant, je travaille quand je veux. Ça veut dire que là, ce week-end, j'ai bossé. Mais ça m'a pas coûté tant que ça. Par contre, vendredi, j'ai pas travaillé. Je pense que jeudi matin, je vais peut-être aller justement plonger. Tu vois, moi, je vois vraiment le truc en fait, c'est ça que j'adore.
T'as une
C'est, ouais,
fluidité.
fluidité. Du coup, j'ai jamais l'impression d'aller au travail. J'y vais juste, je, enfin, je, si, des fois, quand je suis à la fin de mes conclusions, que j'en peux plus, bien sûr que c'est dur. Mais vraiment, j'essaie de toujours me dire, en fait, quand j'arrive pas à travailler, il vaut mieux se barrer, en fait, il vaut mieux faire autre chose.
Et si j'ai une question qui m'a échappé tout à l'heure, mais maintenant je m'en souviens. Du coup, maintenant, quel est ton rapport à ton côté, tu sais, par rapport à la rigueur, à qui tu es comme avocat, quelles sont tes forces comme avocat? Et ton approche dans les dossiers, du coup, qui découle ou pas de ses forces, enfin, tu vois, cette question.
Bon, je suis plus mature quand même qu'avant. Je pense que j'ai acquis en maturité par rapport à ça. J'ai aussi compris que, en fait, et c'est ça que j'ai appris chez Christophe Basse, une pensée bien formulée dans un truc mal écrit ne sert à rien. Donc il faut d'abord commencer à bien écrire et ensuite présenter quelque chose d'intéressant. Oui, après, j'essaie de. Non, franchement, et le passage dans le cabinet parisien m'a beaucoup aidé aussi. Parce que c'était des systèmes de relecture, hein, avec des markup, 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 markup et autres. Bon, mine de rien, à force de se relire, on finit par gommer ce truc-là. Après, j'ai pas une gestion mathématique de mes dossiers, c'est pas toujours. Enfin, de mes dossiers dans le sens. Voilà, mais moi, je m'y retrouve. Moi, je m'y retrouve, et en tout cas, je pense pas. Enfin, j'ai. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ça m'a pas. J'ai pas eu de truc où de me dire, là, je suis passé complètement à côté de ça.
Non, non, mais attends, c'est ton mode de
Ouais.
fonctionnement. C'est juste que ce qui
Oui.
m'intéressait, c'était ton rapport à toi-même par rapport à, enfin, tu vois,
Ouais, c'est l'effort que ça me
voilà.
coûte. C'est l'effort que ça me coûte. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est plus. Voilà, de réussir à faire mais bon, pour l'instant, et le fait d'être en front line, comme tu dis, en fait, ce défaut-là ne ressort n'est plus vraiment un défaut qui me pose problème. Voilà. Donc ça, pour l'instant, enfin, en tout cas, pareil, je touche du bois et j'espère que je vais continuer de garder cette rigueur-là.
C'est trop cool.
Ouais.
Et donc l'avenir de ton exercice, continue à t'engager pour ta profession et pour
Ouais,
les justiciables.
j'aimerais bien organiser des formations. J'ai 15 milliards de projets en cours. Voilà, j'avais à un moment donné un projet de podcast aussi que j'ai abandonné, mais qui est au
Un
placard.
podcast
Mais
sur quoi, je
voilà,
veux tout savoir.
c'était non non, mais c'était un truc de justement un peu pas d'entretien, mais avec des avocats pénalistes.
Oui.
Et puis non non, voilà, c'est ça que j'ai envie de m'investir. Dans le schéma un peu de formation, tout ça, voilà. Ouais. Et puis
Formation
après,
pénale.
ouais, formation pénale. Et puis après, voilà, réussir. J'aimerais bien l'été prochain partir en vacances en ayant mon portable quelque part ailleurs que dans ma poche.
Comment tu vas faire ça?
En ayant un, je sais pas. Soit un stagiaire que je forme suffisamment, qui puisse stagiaire une ou un, qui puisse répondre, soit quelqu'un avec qui je travaille qui puisse répondre, soit une organisation suffisamment carrée avant pour que les clients. Mais bon, le problème c'est qu'il y a toujours le problème de la de clients qui arrivent. Bon voilà, moi j'ai quand même une clientèle quand même en début d'exercice qui est quand même basée quand même pas mal sur le turnover. Il y a beaucoup de gens qui viennent qui repartent.
Oui.
Et donc le problème c'est quand t'es pas là pendant 3 semaines, ça fait 3 semaines de trou quoi. Et des fois c'est un peu compliqué.
Ouais.
Bon, c'est mon avis.
Sous-traitance avec
Ouais,
un
peut-être, je
confrère
sais
de
pas.
confiance. Bon, en tout cas, je te souhaite plein de choses pour cette fin d'exercice, ce début d'exercice,
Ah,
cette
parce que c'est ça,
poursuite
moi je suis pas
d'exercice. Non, la
encadré
fin, oui,
là.
j'avoue, c'était pas du tout le bon mot. Cette poursuite d'exercice, quelle est ta dernière joie, Valentin?
Ma dernière joie, c'était en C'était dernière joie, c'était ce week-end. Mes deux dernières joies, c'était à 17h d'avoir fini ma permanence plus tôt que prévu et justement d'avoir rejoint mes amis à Malmousque et de m'être baigné, d'avoir profité du coucher de soleil. Et l'autre dernière joie, c'était de réussir à obtenir une libération, mais une libération quand même ce week-end. Voilà, ça, c'était cool.
Et mais bravo.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe?
Eh bien, je porte un pantalon noir et une chemise blanche parce que je ne veux pas que les magistrats regardent autre chose que ma robe. Et je porte un maillot de bain prêt à partir.
Merci beaucoup, Valentin. Merci pour cet échange. Toi.